Les brocolis, j'aime bien.
Mais moi, j'adore les tomates. Moi, j'aime bien les fraises.
Les haricots verts.
Non, pas les champignons. C'est plutôt en été, je crois. Ou en automne.
En ce moment, de la clémentine ou de l'orange, je sais pas.
Moi, je connais la pomme, la banane, carotte, courgette, pomme de terre.
Il y a des fruits que j'aime pas, mais il y a des fruits souvent que j'aime bien.
Des salades de fruits, moi j'en fais avec mon père. Bah, de la fraise, de la banane.
Moi j'aime pas du tout les poivrons, les petits pois. Les carottes râpées, j'aime bien, mais par exemple, les carottes avec la viande, j'aime pas.
Je confonds les fruits, les légumes et les...
La plupart du temps, les fruits, c'est sur des arbres. Les légumes, c'est plutôt sous terre. Les fraises, je crois que c'est sur un arbuste. Les framboises, c'est pareil.
Non, mais c'est plus vers l'été où il y a des fraises, des tomates et des cerises.
Et en fait, le problème, c'est qu'on en amène d'autres pays. Du coup, je sais pas trop...
J'aime bien la saucisse aussi, au chou.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne sais pas vous, mais moi, je me suis beaucoup rapprochée des légumes avec mes enfants pendant le confinement. Car nous tentions des expériences enfermées entre quatre murs et notamment laisser tremper les restes d'un poireau dans un verre d'eau et admirer le spectacle. Un nouveau poireau se reconstitue. Bon, c'est un spectacle au ralenti, mais qui fait de l'effet. Et je peux vous dire que ce poireau-là, celui qu'on a vu repousser comme par magie, est beaucoup plus facile à faire manger aux enfants. Des fruits et des légumes, voilà le menu de Barbatruc cette semaine. Ne cédons pas à la facilité qui consiste à croire que les enfants n'aiment pas ça. Certes, le chou-fleur de la cantine a créé bien des traumatismes, mais rien n'est jamais foutu. Encore faut-il savoir parler des fruits et légumes, et bien les préparer en impliquant le plus possible les enfants en cuisine. Encore faut-il les aimer soi-même, se réconcilier avec eux peut-être, car les goûts et dégoûts souvent se transmettent dans les familles. Mes invités ont des conseils à foison. C'est parti, même pas peur des fruits et légumes.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Avec deux invités fans de carottes et autres légumes dans Barbatruc. Bonjour Estherelle Payani.
Bonjour Dorothée.
De retour dans cette émission, vous êtes journaliste et critique culinaire à Télérama. Vous proposez tous les mois des recettes à faire avec les enfants, des recettes qui sont très souvent très savoureuses. Et vous écrivez aussi des livres, le dernier en date, La cuisine des beaux restes chez Flammarion. Ce sont des recettes pour ne plus jamais rien jeter. On y trouve par exemple un tzatziki de radis défraîchi. Quand le radis n'a pas bonne mine, il ne termine pas dans la poubelle pour autant, Estherelle.
Jamais. Mmh. C'est pas la peine d'acheter des beaux légumes pour nourrir les poubelles.
Mais même quand il est tout mou, tout rabougri.
Alors, c'est qu'il craint un peu l'humidité, le radis. C'est ça qui fait qu'il rabougrit, qu'il ramollit. Mmh. Mais si on le coupe tout fin, on peut le rajouter à la volée dans un petit bouillon. Pour finir, ça fait des petites touches de couleur, ou mélanger à du yaourt à la place du concombre.
Du radis en tzatziki. Vous avez des recettes à nous proposer pour cuisiner des fruits et légumes de saison avec les enfants. D'ailleurs, je parlais du poireau à l'instant. Légumes de saison toute l'année, le poireau?
Bah oui, c'est ça son grand avantage. Et puis, on peut en préparer à l'avance. Ça, on en prépare une boîte, on les mince, on le passe juste à la poêle. On le met dans une boîte et puis toute la semaine, on peut en glisser un petit peu dans les purées, dans les soupes, ou quand on prépare des pâtes. Et comme ça, hop, des poireaux, ni vu ni connu.
Faites-vous aussi des poireaux magiques à la maison?
Alors, j'ai la chance d'avoir un jardin. Ah. Donc, on a planté nos poireaux et on peut envoyer les enfants tirer les poireaux. Et quand il pleut, c'est un sacré sport.
Mon deuxième invité est un bénévole de l'école comestible. Bonjour Régis Pezos.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue sur France Inter. L'école comestible, c'est une association qui propose de l'éducation alimentaire dans les écoles, de la terre à l'assiette. Vous apprenez aux enfants à mieux manger, tout simplement. Est-ce qu'on se salit les mains dans vos ateliers?
On se salit les mains et on se remplit la bouche, c'est le slogan.
Est-ce qu'il y a une parole d'enfant qui a retenu votre attention parmi ceux qu'on a entendus en introduction? Il y a pas mal d'approximations, notamment sur les fruits et légumes de saison.
Tout à fait, ça fait partie des choses à expliquer, donc avec des petites choses, leur dire allez regarder les légumes, ce qui vient de France, et comme disait le petit garçon, parfois on les fait venir d'autres pays. Regardez, prenez tout simplement ce qui vient de France. Et j'ai bien aimé aussi la petite parole sur Moi, j'aime les carottes râpées, mais pas celles qui sont cuites, pas celles avec la viande. Il faut écouter.
Ça, c'est quelque chose qu'on s'imagine souvent, que faire cuire les légumes, ça les fait mieux passer auprès des enfants. Il faut balayer cette idée-là.
Ah, mais tout à fait. Il faut balayer. Le principal risque sur un légume, c'est quand on le fait trop cuire. La meilleure moyen de pas trop le faire cuire, c'est de pas le faire cuire. C'est de le manger cru.
L'école comestible, c'est un atelier alimentaire, je le disais, mais qui intervient sur le temps scolaire. C'est le principe.
Tout à fait. On vient, c'est 1h30, typiquement après la récré de 10h15, et on garde les enfants avec leur maîtresse durant 1h30, et on fait en sorte, comme on le disait, qu'ils aient la bouche pleine et les mains sales.
Donc surtout en maternelle et en élémentaire.
Ouais, principalement primaire.
Quel a été l'effet Covid sur vos ateliers?
Ça nous a ouvert des perspectives. On a eu notamment des parents, puisqu'en fait, même si c'est sur le temps scolaire, il faut que ce soit porté par des parents. C'est-à-dire que on peut pas tout attendre de l'éducation nationale. Ça doit être porté par des parents. Et en fait, on a des parents aussi un petit peu. Et clairement, ça a été mon cas, même de l'activité partielle, où à un moment, je travaillais dans le tourisme et donc j'avais du temps à consacrer. Et c'est cet effet-là qui a déclenché, fait en sorte que même déclencher des reconversions chez nous.
Donc ça a été plutôt pas mal pour l'association. L'école comestible qui essaime un peu partout en France. Vous allez nous donner tous les deux avec Esther El Payani des trucs et astuces pour reconnecter les enfants avec les fruits et légumes. Cette émission en partenariat avec Bayard Jeunesse a été préparée par Margot Page et Juliette Proutot. Réalisation Christophe Imbert, Thomas Langlin est à la technique. Et la programmation musicale, c'est Jean-Baptiste Audibert. Il a choisi d'abord un rappeur français. Voici Vald sur Inter.
Le téléphone sonne et je réponds plus de moi. Même quand je savonne, le démon pue le moi. Ok, je vole comme la mort, je reste un peu sur le toit. C'est quoi ta botte, t'as l'air tellement sûr de toi. Putain, tu lis dans les pensées, je dis même pas tous les mots. T'as j'ai tendance à penser que c'est faux. Mais là, je commence à trembler, je pourrais même trouver beau tes menaces de merde, tes textos. On parle, on parle, on parle, mais ça dit pas grand chose. Je te dis, je suis sur tes côtes, je parle pas gréa dans l'eau. Dans ma piscine, je traverse ma sangria dans l'eau. Je peux te faire tourner en l'air comme un grand pizzaiolo. Je peux dire n'importe quoi, elle rigole toujours à mes blagues. Et le soir, elle s'endort contre moi. Enfin, je dis n'importe quoi, tant qu'elle rigole à mes blagues. Et que le soir, elle s'endort contre moi. Le jour se lève, mais pas l'obscur. Ils comprennent pas plus que moi, mais ils veulent m'expliquer. Laisse tomber, c'est de la folie, tu vas pas y arriver. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, jamais. Laisse tomber, jamais. Laisse tomber, jamais. Pas des balles inversées, les balles dans le dos. Non, c'était Galère hier qui trouve que t'es trop devant. Gros, tu t'inventes des adversaires, mais regarde dans ton camp. Cherche pas Cerbère ailleurs que dedans. Non, je reste dans ma tanière, je m'inquiète tout le temps. J'emballe ta carrière et tu me fous le camp. J'ai trop de punchline, je sais qu'on m'écoute. Avec dans la bouche comme un coup de sang. Le jour se lève, mais pas l'obscur. Ils comprennent pas plus que moi, mais ils veulent m'expliquer. Laisse tomber, c'est de la folie, tu vas pas y arriver. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, jamais. Laisse tomber, laisse tomber, jamais. Laisse tomber, laisse tomber, jamais. Laisse tomber.
Des pommes, des poires, des asperges, des courgettes et des enfants. Nous parlons fruits et légumes cette semaine dans Barbatruc. Comment les faire aimer aux enfants et aux ados avec Esther El Payani, journaliste gastronomique à Télérama, et avec Régis Pezous de l'école comestible. La parole est aux enfants. Notre reporter Juliette Proutot a promené son micro cette semaine dans les rues de Nantes et de Rouen. Question, pourquoi faut-il en manger et comment ça pousse ?
Il y en a qui poussent dans la terre comme les tomates et d'autres dans les arbres.
Bah déjà les courgettes, il y a une grosse tige avec des feuilles et les haricots verts en fait, ça pousse avec une tige, plein de feuilles et puis plein d'haricots.
Les framboises c'est comme les fraises parce que j'ai un framboisier et un fraisier c'est moi. Des fois, avec papa, on allait en cueillir et on en avait mangé. C'était trop bon. À l'école, on a un cerisier, on a un pommier. Des fois, on ramassait les pommes pour faire un gâteau. On a un boirier.
Tout ça à l'école ?
C'est comme un jardin qui est énorme, en fait.
Est-ce que l'haricot vert, vous savez comment est-ce que ça pousse ?
Une sorte de plante, une tige un peu qui fait des espèces de poches à l'intérieur. Il y a les... Ah non, je confonds avec les petits pois.
Chez notre maman, on a un compost et il y a des patates qui poussent dans le compost.
C'est parce que ça devait être des restes de patates.
Ouais,
et du coup,
les vieilles patates,
elles ont poussé. Comme quand tu mets des noyaux ou des pépins, et tu risques d'avoir, par exemple, si c'est des pépins, un melon ou un abricotier. Ou un ananasier, si tu mets la queue de l'ananas, tu la laisses tremper.
Pourquoi est-ce qu'il faut manger des légumes ?
Pour avoir des vitamines.
Pour avoir des fibres. Pour avoir plusieurs nutriments dans son corps qui sont utiles.
Sauf si tu fais que d'en manger, tu vas grossir.
Parce que ça nous fait... Maman, elle dit que ça nous fait grandir et que c'est important pour la santé.
Voilà, je me dois de rectifier les propos de l'un de ses enfants avec tout le respect que je lui dois, bien sûr. L'ananas ne pousse pas dans un ananasier, même si ce mot est très joli. Mmh. Les barbarismes sont les bienvenus dans Barbatruc. L'ananas pousse au sol, au creux d'une plante qu'on appelle aussi... l'ananas. Très joli à regarder d'ailleurs. On a l'impression que l'ananas a été posé au milieu de la plante. Esther El Payani, est-il important de savoir comment ça pousse pour aimer les fruits et les légumes ?
C'est sûr que ça contribue à les aimer, à les faire aimer, puisque quand on voit d'où ça vient, ça reste quelque chose de moins étranger. On a moins peur de le faire entrer dans notre corps. Donc c'est ça l'acte de manger quand même. Ça a l'air naturel, mais c'est quand même un peu intimidant. Il faut savoir si ce qu'on va mettre dans notre bouche est toxique ou pas. Quand même, c'est le premier réflexe qu'on a. Donc, si on sait que ça vient d'un endroit, on a vu d'où ça vient, on sait où ça va.
Alors, quels légumes, quels fruits offrent les plus belles histoires à raconter aux enfants, d'après vous ?
Jack et le haricot magique, déjà. quand on se demande comment ça pousse, quand on voit la vitesse à laquelle pousse un plant de haricot, de jour en jour, c'est assez impressionnant. Ça permet aussi de voir que c'est précieux, un fruit et un légume, que c'est pas quelque chose qui sort uniquement d'une boîte ou du congélateur. Par exemple, pour aller cueillir des haricots verts, pour les distinguer du plant à l'œil, vous savez, c'est pour ça qu'on fait plusieurs cueillettes d'un jour à l'autre, parce qu'on a du mal à les distinguer, tout simplement.
Et on finit par voir flou.
Et oui. C'est comme ça qu'on diagnostique certains problèmes de vision, en fait. Et puis aussi, quand on va cueillir les fraises, on voit le temps qu'il faut pour cueillir des fraises quand elles poussent au sol. On comprend mieux pourquoi ça coûte cher. Alors, les fraises, c'est pas un gros problème pour les enfants. Ouais. C'est tellement doux qu'en général, ils les apprécient.
Je vous vois venir, c'est votre combat, la chasse au gaspille, Esther El Payani. On mange tout dans les fruits et légumes. Vous mangez, par exemple, le trognon du chou-fleur.
Évidemment, pourquoi le jeter ? Alors là, c'est Michel Brasse qui appelle les trognons des choux en général, il les appelle la moelle. Donc, tout de suite, on voit que c'est quelque chose de central. L'important, c'est de le peler, que ce soit pour un brocoli ou un chou-fleur. Il y a quand même une peau assez épaisse. Si vous le faites cuire directement, vous n'allez pas apprécier. Ça va être tout ligneux. Il faut le peler au couteau. Et puis après, soit si vous faites cuire vos brocolis ou vos chou-fleurs à la vapeur, vous pouvez les mettre avec. Mais c'est aussi délicieux râpé. Cru, ou simplement à l'apéro, coupé en fines lamelles. J'ai une copine qui le trempe dans la sauce soja. C'est sa petite Madeleine, le temps qu'elle regarde le reste du repas cuire. Ou si on fait des pâtes au chou-fleur, pareil, on les cuit avec, on le mélange.
Est-ce que vous l'avez testé auprès d'enfants, le trognon de chou-fleur râpé ?
Moi, j'en ai moi-même deux. J'ai deux exemplaires d'enfants élevés aux légumes à la maison. Ils poussent très bien. À part qu'ils n'aiment pas les mêmes légumes, mais ça, c'est le problème récurrent dans les fratries, des goûts opposés. Mais ça, on va certainement en reparler, Dorothée. Oui, ils ont testé et approuvé. Il y en a un dont c'est le morceau préféré, en fait. Si je fais un brocoli, il y en a un qui va spécifiquement prendre son morceau. C'est un peu son solilès de poulet version légumes.
Régis Pezous, ça fait partie, je crois, de votre démarche à l'école comestible. Raconter et montrer comment poussent les fruits et légumes pour les reconnecter aux enfants.
Exactement. Reconnecter, c'est vraiment le bon mot. Notre atelier star, donc durant 7h30, ce qu'on appelle la cagette de saison. On arrive avec une dizaine de kilos de légumes. Idéalement, il y a le maraîcher. Idéalement, on a eu un petit jardin, comme le disaient les enfants dans le micro-trottoir, mais c'est pas toujours le cas, mais ne serait-ce qu'une belle cagette de fruits de saison, encore sale, avec de la terre, avec des carreaux de sable, les pommes de terre pas lavées, et on va commencer à les regarder, on va montrer un petit peu des photos, on parlait de l'ananas, je sais pas si tout le monde sait comment poussent par exemple les choux de Bruxelles. C'est magnifique. Regardez, regardez juste, cherchez plantes choux de Bruxelles. C'est magnifique. Les choux de Bruxelles poussent sur le tronc.
Ça ressemble à un palmier et les petits choux sont accrochés au tronc du palmier. C'est absolument dingue.
Mais ils disent que ça ressemble à une épée laser de Star Wars.
Bah voilà. Bon, évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que ça fera plus aimer les choux de Bruxelles que de trouver ça joli quand ça pousse?
C'est ce qu'on croit et c'est ce qu'on a découvert. Franchement,
ouais,
clairement. Nous, on a fait manger des centaines de kilos de chou-fleur à des enfants sans jamais faire un gratin. Donc, regardons un gros plant de chou-fleur, dessinons-le. Les enfants adorent ça.
Et alors, surtout pas de gratin, vous dites?
Je dis pas surtout pas de gratin, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut tout à fait faire manger. On parlait de cette cagette de saison. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a montré les légumes, une fois qu'ils les ont reconnus, on va commencer à les toucher, à les laver et à les goûter crus. On a tendance à projeter parfois un petit peu nos goûts, dégoûts, comme vous disiez, de parents. On pense, nous, que d'abord, en goûtant ces légumes, la plupart des légumes se mangent crus, hein, franchement, à part les pommes de terre et d'autres trucs un peu particuliers, on fait même manger des poireaux crus aux enfants. Donc, il n'y a pas de souci, il faut les trancher très fins. Mais
donc, ce que vous dites, c'est qu'on pense souvent, en tant que parent, que ça passera mieux si c'est cuit.
Que si c'est cuit, que si c'est caché. Donner cette possibilité aux enfants de goûter les choses crues. Ensuite, ils peuvent mélanger, mais il faut d'abord dissocier.
De grands gestes d'enthousiasme silencieux de la part d'Estérel, comme vous avez dit, pas de gratin.
Ah non.
C'est quoi votre problème avec le gratin de chou-fleur, Estérel?
C'est que c'est trop cuit, c'est que c'est plein d'eau et qu'on ne sent pas tellement le goût du chou-fleur. Ça développe le goût soufré, qui est finalement le goût un peu désagréable dans le chou-fleur, alors que râpé cru, c'est beaucoup plus doux, c'est un petit goût d'amande. Dans une autre vie, moi j'ai bossé à l'interprofession des fruits et légumes. Oui, j'ai eu plusieurs. J'étais dans le même bureau que les gens qui travaillaient sur les études scientifiques. C'était passionnant de les entendre discuter. Il y avait notamment une étude qui prouvait que pour qu'un légume soit accepté par des enfants, il fallait qu'il soit proposé au moins une dizaine de fois, sous différentes formes, et que le fait que ce soit cru ou cuit, bah en fait, ça comptait comme deux légumes différents. C'est-à-dire, rappelez-vous quand vous étiez enfant, moi, dans ma famille, il y avait des gens qui aimaient les tomates crues, la salade de tomates, et les tomates à la provençale, qui n'y touchaient pas. Le pire exemple pour moi, c'est le concombre. Hein. Il y a eu une mode dans les années 70 où on faisait cuire du concombre.
Mais non.
Si, si, les billes de concombre, dans plein de places, ça se faisait. Hein. Je vous déconseille quand même, c'est vraiment pas bon, le concombre cuit, je pensais de le dire. Alors, si j'en ai mangé une fois sauté avec de la sauce soja, juste passé un quart de seconde dans une poêle, oui, d'accord. Mais sinon, concombre cru, croquant. Donc, avec cet exemple, considérons vraiment qu'à chaque fois une carotte râpée, c'est pas du tout une purée de carottes ou une carotte Vichy. Ça vous permet d'avoir plus de petites astuces sous la main pour essayer de les faire goûter.
Alors évidemment, sur ce sujet du cru et du cuit, il y a toute la question des bienfaits. Comment est-ce que vous expliquez dans votre école comestible les bienfaits des fruits et légumes aux enfants, Régis Pezous?
On utilise beaucoup les saisons, mais on va leur expliquer que les légumes qui poussent, alors selon l'âge, on fait... plus simple, été-hiver, ça suffit. Mais on va leur expliquer que les légumes qui sont en été à notre disposition, c'est des légumes qui sont gorgés d'eau, puisqu'il fait chaud, puisqu'on a besoin de boire, alors que les légumes qui sont en hiver sont des légumes plus doux, un petit peu plus consistants, qui vont nous aider à affronter les températures. Et ça, ils vont le comprendre très bien. Et ça marche très bien. On ramène du plaisir, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire « vous devez absolument manger X légumes ». Non, on ramène du plaisir et c'est par le plaisir que ça.
Vous leur faites aussi planter des légumes. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent qu'un légume qu'on a planté soi-même, on le mange forcément avec beaucoup plus de plaisir et d'enthousiasme?
Absolument. Comme disait Estérel...
C'est comme le poireau magique dans ma cuisine confinée, ça marchait très bien.
Bah, oui. Et ça permet... de se reconnecter, même des trucs tout simples, même si on n'a pas de jardin, le fait de... On trouve maintenant des sachets de graines un petit peu partout, on trouve des graines germées. Bah, posez à vos enfants des petites graines de poireaux, des poireaux germés et un gros poireau, et vous allez comprendre, regardez la finesse d'une graine de... ou même d'une graine de fenouil, pareil. Graine de fenouil et un fenouil, il faut aller voir, il faut goûter, il faut mettre sous la dent, et c'est ça qui permet de reconnecter et d'avoir moins peur, comme le disait Estérel.
On a parlé du chou de Bruxelles et de l'ananas. Est-ce qu'il y a d'autres fruits ou légumes qui sont amusants ou jolis à regarder pousser en particulier, Estérel Pagliani?
Quelque chose qui pousse très bien sur les balcons quand on n'a pas du tout de place, bah un plant de tomate cerise, ça marche toujours, c'est très résistant en plus aux pucerons, ça grimpe bien. On avait une tradition aussi, c'était de faire avec les patates germées, alors pas celles du compost, celles au fond du bac, vous avez tendance à oublier, Vous les mettez dans une jardinière, dehors, et puis ça fait une végétation façon pampa, de très jolies fleurs bleues. Vous pouvez leur raconter l'histoire de Parmentier, les fleurs, Marie-Antoinette. Et puis, à la fin, avant de partir en vacances, on déterre les pommes de terre. Ça fait comme un trésor, il faut chercher. Alors bon, je vous garantis, c'est pas l'autosuffisance en pommes de terre, je vous promets. Hein. Si vous en avez un kilo, déjà... On a eu jusqu'à un kilo de petites pommes de terre dans une jardinière de taille classique, hein, et en plein Paris. C'est les meilleures patates sautées de leur vie.
Vous nous la racontez quand même vite fait l'histoire de Parmentier, les fleurs et Marie-Antoinette.
Bah alors l'histoire de Parmentier, c'est une histoire de l'invention du marketing alimentaire quand même, parce que les pommes de terre on en consommait dans le Haut-Doubs bien avant que Parmentier s'y mette. Parmentier arrive là-bas et se dit il faut utiliser la pomme de terre pour faire du pain. Les recherches en fait portaient pas sur la pomme de terre juste comme un légume. Il fallait remplacer le pain. Or, c'est pas du tout panifiable de la pomme de terre. Vous essayez, vous avez une brique, quelque chose de pas super. Donc, les premières communications portent sur le remplacement du pain. Ils ramènent ça à Paris. Et ça marche pas, puisque tout ce qui pousse sous terre était quand même vu comme réservé aux paysans, et puis c'était pour les cochons, c'était pas vu comme quelque chose de noble. Donc elle avait mauvaise réputation, cette pauvre pomme de terre. Et Parmentier arrive à convaincre il fallait chercher de quoi lutter contre la famine qui menaçait quand même à cette époque. Et là, il va voir le roi, il dit, mais il faut encourager ça. Donc le roi fait garder les champs de pommes de terre. Et donc ce qui est protégé par le roi devient précieux. Donc les pommes de terre sont volées. On les plante, on les fait pousser. C'est plutôt bon, c'est doux, c'est sucré, c'est un tubercule facile à cultiver. Et la reine met à son chapeau des fleurs de pommes de terre, des très jolies petites fleurs bleues.
Ultime consécration.
Ah ben bah alors là, on est sur Instagram carrément, quoi. C'est Marie-Antoinette ou Beyoncé, on a le choix. Et voilà comment la pomme de terre après. Alors après, il a fallu quelques années pour que ça devienne de la frite et de la purée, mais ça a permis de nourrir à bas coût beaucoup de ventres.
Voilà une histoire à raconter aux enfants pour leur faire manger. Ceci dit, c'est rarement difficile de leur faire manger les pommes de terre.
J'ai jamais croisé d'enfant qui n'aimait pas les pommes de terre.
Allez, on poursuit dans un instant ces échanges vitaminés. Je voudrais dire un mot sur un tout autre sujet. C'est une alerte adressée aux parents qui ont un ado à la maison. Attention à Omegle. Mon camarade Redouane Tella en a parlé dans une chronique du 5-7 de France Inter cette semaine, relayant une enquête du site Coolmag. Omegle est un site internet qui permet de discuter avec des inconnus en ligne par caméra interposée. Pas besoin de s'inscrire, il faut juste certifier qu'on a plus de 13 ans. Évidemment, il n'y a aucune vérification. On clique et on se retrouve face à face avec un ou une inconnue. On peut changer d'interlocuteur à tout moment en cliquant sur un bouton et enchaîner ainsi les rencontres et les discussions au hasard. Ce site connaît un très grand succès auprès des jeunes, des ados et même des pré-ados, et notamment parce qu'ils espèrent y croiser leurs youtubeurs préférés. Certaines stars de YouTube utilisent ce réseau social et le disent dans leurs vidéos. Le problème, bien sûr, c'est qu'on y croise énormément d'adultes malveillants sur Omegle, des exhibitionnistes, des pédocriminels. Aucun système n'a été mis en place par cette plateforme américaine pour ne pas exposer des enfants à des images choquantes. Omegle existe depuis 10 ans. Alors, si vous utilisez un dispositif de contrôle parental, surtout pensez à bloquer ce site. Omegle, O-M-E-G-L-E. L'enquête complète de Coolmag est disponible gratuitement sur Internet. Coolmag, c'est un magazine numérique destiné aux pères. Il a été créé par un ancien reporter de l'émission Quotidien, Baptiste Desmonstiers. Vous trouverez un lien à la page de Barbatruc.
Dorothée Barba sur France Inter.
Is that bitch o'clock? Yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed.
C'était l'ISO sur France Inter, deux fins palais qui savent cuisiner les fruits et légumes crus et cuits, invités de Barbatruc cette semaine, Régis Pezous de l'École Comestible et Estherelle Payani, journaliste culinaire à Télérama. Comment donner aux enfants le goût des fruits et légumes? Impossible de ne pas passer par la cantine, évidemment. Notre reporter Juliette Proutot a demandé aux enfants leurs impressions sur les légumes à la cantoche.
Les épinards, j'aime bien. Ça dépend comment ils sont faits.
Il a une espèce de jus. C'est cuit, enfin, c'est logique que c'est cuit, mais il y a un jus autour, je sais pas comment.
Ouais, ils sont verts foncés.
À la cantine, mais ils nous forcent à goûter, mais on doit juste goûter quand on n'aime pas.
Nous, on est obligés de goûter.
Vous êtes obligés de goûter ?
Nous aussi. C'est au moins une bouchée par chaque chose.
Et c'est bien le problème.
C'est pas nous qui choisissons en quelque sorte les légumes qu'on mange. C'est pas en fonction de nos goûts.
C'est quoi les recettes à la cantine de légumes en général que vous avez ?
Bah, les haricots verts, les brocolis, les petits pois.
Ça dépend. Si, des fois, par exemple, il y a des légumes crus, j'aime pas du tout.
Ouais. La plupart du temps, j'aime pas trop.
Moi aussi, je mange à la cantine.
Toi aussi ?
C'est comment les légumes à la cantine ?
Il y a de la cantine, et à la cantine, il y a parfois de la viande, des légumes, des pommes de terre.
Bah, il y en a qui sont bons, mais parfois ils sont trop salés, c'est pas très bon quoi.
Il y a des carottes râpées. Moi j'aime bien les carottes.
C'est en fait, des fois ils mettent des légumes, mais pour masquer le goût que les gens ils vont pas aimer, ils vont rajouter du sel. Et c'est pour ça que ça va être super salé. Et du coup, souvent, les légumes, ils sont salés, très salés.
Ils sont comment, les légumes à la cantine ?
Ils sont souvent avec de la crème. Enfin, les concombres, les carottes râpées, bof, j'aime pas trop.
Bah, en fait, ils font à moitié des salades avec des haricots verts, des carottes, des petits pois. Des trucs pas très bons.
En fait, les légumes, on sent que c'est de moins bonne qualité que ce qu'on peut acheter dans les magasins. Et donc, c'est moins bon.
Je me souviens d'un truc trop bon que je mangeais en primaire. C'était les pavés de légumes. Les petits pavés avec... Il y avait des carottes, des brocolis, je pense, et des trucs comme ça. Et c'était trop bon. Je me souviens que j'aimais trop.
Nous, ce qu'on a mangé en dernier, c'était une salade composée avec avocat, courgette, petite tomate cerise. Voilà.
Ce qui est bien à la cantine, justement, c'est que la plupart des enfants les aiment pas. Il y a plein de rabais.
Moi, je pense que ils aiment pas, mais c'est pas vraiment qu'ils aiment pas, c'est qu'ils trouvent que c'est moche et du coup, ils goûtent pas.
Très bonne analyse de cet enfant. C'est moche, alors on ne goûte pas. Alors, on va pas se lancer aujourd'hui dans un débat sur les cantines scolaires, Régis Pezous, mais la présentation, évidemment, n'est pas un détail quand on propose des légumes.
Clairement. Et un autre avantage de pas forcément toujours cuire tous les légumes, parce que souvent, on perd de la couleur, donc amusez-vous dans des salades, composez, faites de l'arc-en-ciel, ça marche très bien.
Avec quels légumes êtes-vous particulièrement fier d'avoir réconcilier les enfants grâce à l'école comestible?
J'ai un petit coup de cœur pour le chou rave. C'est une drôle de phrase. On est encore dans la saison. On est en fin de saison, mais c'est un légume magique.
Faut peut-être rappeler à quoi ça ressemble, d'abord.
À quoi ça ressemble? Une grosse pomme aplatie qui pousse pas dans la terre. C'est pas un tubercule. Il y a une racine qui part avec souvent du feuillage. Et plus il y a de feuillage, plus ça veut dire qu'il est frais. Il faut l'éplucher. C'est très proche. On parlait tout à l'heure de la moelle du brocoli. C'est très proche, il faut l'éplucher avec un couteau et vous allez avoir un fruit qui est croquant, beaucoup plus croquant même que de la pomme, un petit peu doucereux, avec plein d'eau, c'est magique. Honnêtement, à côté d'un bol de chips sur un apéro, ça marche très bien. Et je peux vous dire que les deux bols vont se vider à la même vitesse.
Et on le mange comme ça sans rien, le chou rave.
Après on peut s'amuser, mais une fois qu'on l'a aimé comme ça, on y va.
Est-ce que vous me garantissez que ça marche auprès de 100% des enfants de votre atelier à l'école comestible ?
Sans problème. Ouais. On fait manger du poireau cru à des enfants. Alors, si on peut pas faire manger du chou rave, on se dit toujours dans nos ateliers, le premier réflexe, c'est de dire, il y en a un qui va dire, oh, moi, j'aime pas, je déteste. En fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. Franchement, c'est contre-intuitif, mais il suffit qu'il y en ait un qui dise, j'aime bien, et là, ça part en vol de sauterelle et il ne nous reste plus rien sur les plateaux.
Donc ça emporte l'adhésion de tout le monde. Il y a du mimétisme, ça vous confirmez, hein, dans les tables de cantine comme dans vos ateliers.
Tout à fait.
On entendait à l'instant un enfant qui disait qu'il est obligé de goûter à la cantine. Je crois que c'est une des phrases que je prononce le plus en tant que mère, Estherelle Payani. On n'a pas le droit de dire qu'on n'aime pas si on n'a pas goûté. Quelle est votre religion en la matière?
Avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Déjà, moi ce que j'ai retenu dans le micro-trottoir, c'est que c'est pas forcément le légume qu'il n'aime pas, mais l'assaisonnement, que ce soit la crème ou la vinaigrette. Parce que entre une betterave nature et une betterave à la vinaigrette, moi j'aime pas tellement les betteraves. Le côté super sucré avec le côté vinaigré, ça me plaît pas particulièrement en tant qu'adulte. Alors pourquoi j'imposerais ça à mes enfants? Donc c'est vrai que j'ai plus tendance à leur dire goûte cru pendant que je suis en train de préparer la chose, pour qu'ils aient l'ingrédient nature. Et après, alors il y a celui qui va aimer ma salade de feuilles d'épinards, il y en a un qui l'aime quand il y a de l'huile de noisette, et l'autre qui préfère à l'huile d'olive, par exemple, chez nous.
C'est pas simple, ça.
Non, alors ce qui fait que je suis adepte un peu du kit pour les légumes. Chez nous, il y a toujours deux plats de légumes. L'avantage d'avoir des restes, et justement de bien les réserver au réfrigérateur, c'est que comme ça, celui qui ne veut pas manger le légume prévu pour le plat du jour, bah il va manger le légume qui reste de la veille. Et il y en a toujours comme ça, un cru et un cuit. Donc tu veux pas manger mes haricots verts sautés au pesto, ouvre le frigo, il reste de la salade verte d'hier, ou il reste une salade de tomates, que sais-je, ou une fondue de poireaux que j'ai préparée pour la semaine, tu peux t'en faire chauffer. Et comme ça, il est pas puni en fait. Et ça permet parfois de dépit, ils vont aller prendre quelque chose qu'ils aiment un peu moins, puis finalement, ils aiment bien. Parce qu'ils changent de goût au fur et à mesure avec les âges. On reste toujours sur une idée, quand t'étais petite, t'aimais pas ceci ou cela, donc on va pas avoir tendance à le mettre au menu. Et puis il va le goûter ailleurs, chez un copain, ou parfois même à la cantine, et dire, finalement, ça j'aime bien. Ah, cool! Un truc de plus à rajouter au menu.
Voilà, mais donc on goûte, hein, pour dire qu'on aime ou qu'on aime pas.
Oui, on goûte, ou parfois on se rend compte qu'on a goûté sans vraiment s'en rendre compte. Si on en met.
Alors justement, il y a une invitée de Barbatruc il y a quelques semaines qui nous disait que le secret, c'était de ne pas prononcer les noms des aliments. Servir de la courgette, par exemple, mais sans prononcer le mot courgette. Comme ça, si l'enfant n'aime pas la courgette, on peut lui en reproposer un autre jour sous une autre forme, et il n'associe pas le mot courgette à un mauvais souvenir. Est-ce que c'est de l'escroquerie pure et simple ?
Non, c'est un peu comme Voldemort, ça n'empêche pas d'exister la courgette. Mais ça marche pour un certain âge en effet, parce qu'on est conditionné après. Et puis même quand on est grand, regardez, on n'aime pas un légume. Tous les enfants et les adultes, on a des goûts et des dégoûts. Donc je pense que c'est pas faux. Puis ça permet de sortir la blague habituelle. Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir? Du caca. Voilà, comme ça, hop, on sort. Vous la faites jamais, voyons.
Tester et approuver, évidemment que si. Ça, c'est une manière de lutter contre la néophobie alimentaire. C'est un phénomène bien connu qui fait que les enfants n'aiment pas goûter de nouvelles choses, Estherelle Payani.
La néophobie alimentaire, il y a quelque chose d'assez important à avoir en tête. C'est qu'effectivement, on est naturellement conditionné pour se méfier de ce qu'on mange. Pour protéger l'espèce humaine, les enfants sont conditionnés. Si visuellement, ce n'est pas rassurant, ils ne vont pas le goûter. L'exemple type, c'est la ratatouille. C'est plein de choses délicieuses, mais c'est un magma. Vous savez pas qu'est-ce que vous allez manger. C'est pas rassurant du tout. Avant 6 ans, une ratatouille, c'est hyper compliqué, vraiment, pour que l'enfant la goûte naturellement. Alors que si il a goûté avant des courgettes sautées, vous mettez dans la même assiette des courgettes sautées, des morceaux d'aubergine et puis un peu de sauce tomate, il va avoir moins de mal à le manger que tout mélanger. Donc ce que disait Régis tout à l'heure sur le côté assiette arc-en-ciel, ça marche super bien contre la néophobie alimentaire. Les choses bien séparées visuellement. Vous vous souvenez, hein, les pâtes et la sauce à côté, ça marche aussi pour les légumes.
Il ne faut surtout pas que ça se touche dans l'assiette.
Bien évidemment.
Régis Pezous, vous constatez aussi dans vos ateliers la néophobie alimentaire des enfants?
Absolument. Ce principe de la séparation, faites-les goûter et laissez ensuite les enfants assaisonner. Quitte à
faire des mélanges saugrenus.
Tout à fait. Oui. Aucun souci.
C'est très bon, fraises épinards.
Oui.
Non, ça c'est vrai.
Aussi et betterave framboise. Ah ben si, bien sûr, une salade d'épinards avec des petits morceaux de fraises, c'est super bon. Une salade de betterave avec un petit peu de framboise écrasée, c'est super bon.
Les carottes, c'est bien connu, rendent les enfants aimables, Estherelle Payani. Nous sommes nombreux, nos autres parents, à nous désoler qu'en grandissant, ils n'aiment plus ça, alors que la purée de carottes les enchantait quand ils étaient bébés, si quand même, souvent. Vous avez la solution, ça s'appelle le carotte dog. C'est un hot dog dans lequel la saucisse est remplacée par une carotte. J'ai découvert ça avec Enchantement dans les colonnes de Télérama, c'est une recette à vous. Testée et approuvée avec des enfants, le carrot dog?
Oui, alors j'ai deux enfants très amateurs de hot dog, mais j'en ai un qui aime beaucoup les légumes et l'autre qui aime pas la viande. Donc il y en a un qui a été nourri avec des courgettes évidées dans lesquelles je mettais une saucisse, et l'autre qui avait du pain mais qui voulait pas de saucisse dedans, donc j'avais remplacé la saucisse par une carotte, il suffit de la peler, puis on peut la faire légèrement pocher avant de la braiser avec un petit mélange de ketchup, sauce soja, sauce barbecue, ce que vous avez sous la main qui va donner un peu de la couleur et le côté fumé. Et puis vous garnissez pareil avec des oignons, de la moutarde si vous aimez, ou un tzatziki de radis, quelque chose qui va donner un peu de gras et de fraîcheur. Et hop, en pique-nique, vous avez comme ça un petit sandwich végétarien à portée de main.
Très joli à regarder en plus. Et on laisse la fan de carottes.
Alors, quand on prend des légumes bio, l'avantage, c'est qu'on peut tout consommer. Donc, les fans de carottes, c'est bien, mais sinon, je vous conseille pas de les consommer à tous les repas. Mmh. On peut en faire un pesto. Il faut bien les laver parce que c'est sableux, les fans de carottes. Donc, bien, bien, bien les laver. Vous les faites blanchir pour enlever un peu d'amertume, donc plonger dans de l'eau bouillante, et puis vous les hachez. Et vous pouvez comme ça aussi assaisonner votre hot dog avec le pesto de fan.
Allez, puisqu'on est sympa, on a mis la recette du carotte dog sur la page de Barbatruc sur franceinter.fr. Oh, quelle joie! Voici les Beach Boys sur Inter, un extrait de l'album Smile, paru en 1967. I'm gonna be around my vegetables, I'm gonna chow down my vegetables, I love you most of all, my favorite vegetable. If you brought a big brown bag of them home, I'd jump up and down and hope you'd toss me a carrot. I'm gonna keep well my vegetables, cart off and sell my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. All day by vigil, I tried to kick the ball, but my tinny flew right out. I'm red as a beet, 'cause I'm so embarrassed. I know that you feel better when you send us in your letter and tell us the name of your favorite vegetable. I know that you feel better when you send us in your letter and tell us the des légumes et des fruits à la table des enfants cette semaine, même pas peur, avec Estherelle Payani, journaliste culinaire à Télérama, et avec Régis Pezous de l'école Comestible. On se demande comment créer un lien solide, tant qu'à faire, entre les enfants et les fruits et légumes. Écoutons à nouveau des enfants. Juliette Proutot, notre reporter, s'est promenée dans les rues de Nantes et de Rouen.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des légumes qu'on peut ne pas aimer quand on est petit et aimer ensuite quand on est grand?
Bah oui, les goûts ça change quand même. Genre, imaginons, il y a un légume que t'aimes pas trop, du coup t'en manges pas. Et à un moment, tu te souviens plus que t'aimes pas ce légume et tu en prépares et tu manges et t'aimes bien.
Est-ce que les adultes ça mange plus de légumes que les enfants?
Pas forcément.
En soi, non, puisqu'on mange, ils font la cuisine pour nous aussi, donc on mange ensemble. Bah, moi, mon beau-père, il a plein de légumes qu'il aime pas, alors que nous, on aime bien.
Nous, notre père, avant surtout, il était super compliqué, il mangeait presque aucun légume. Maintenant, il en mange un petit peu, mais par rapport à lui, on mange énormément de légumes.
Quand tu grandis, tes goûts changent et quand tu regoutes, bah. T'as plus de chances d'aimer.
Chez moi, c'est plutôt le contraire, je suis un énorme mangeur.
Moi, juste avant, j'aimais pas les avocats
et les œufs. Et maintenant, j'aime bien. Et plus tu grandis, plus tes papilles vont se développer.
J'avais les choux de Bruxelles, mais ça...
Les adultes, en fait, ils font l'effort de manger, mais les enfants, en fait, quand ils aiment pas trop, les adultes, ils les forcent pas trop, en fait.
Par exemple, ils nous font manger des choses qu'on ne connaît pas, mais du coup, on sait pas ce qu'il y a dedans. C'est comme ça que j'ai découvert les brocolis.
Si vous aviez des petits frères, des petites sœurs qui n'avaient pas mangé les légumes, comment est-ce que vous feriez pour lui faire aimer ça?
Moi, j'ai une recette, c'est gâteau au chocolat à la courgette. Et c'est trop bon, même si on n'aime pas les courgettes, ça remplace le beurre et on sent pas la courgette et c'est super bon.
Leur dire que c'est pas des légumes, en quelque sorte changer l'aliment.
Le mensonge.
Oui, voilà.
Mélanger avec d'autres aliments pour un peu cacher, entre guillemets, le goût.
Voilà, on en revient toujours au mensonge, à l'arnaque, à l'escroquerie. C'est un peu désespérant, cette histoire. Gâteau courgette chocolat, bonne idée, Esther El Payani?
Oui, parce que la courgette râpée, ça va remplacer une partie du beurre, puis ça va donner du moelleux.
Mais c'est moins gras, c'est moins bon, non?
C'est autre chose. Mmh. Pour moi, ça fait partie de la panoplie des gâteaux au chocolat, mais on va pas dire que 150 grammes de courgettes, y a surtout beaucoup de chocolat et de sucre dedans, ce qui est très bien d'ailleurs. Ça fait un petit bonus de fibres, en fait, et il se conserve mieux surtout, vous pouvez le garder deux jours.
Caramba, encore raté pour le show de Bruxelles, hein, qui vient de se prendre encore une petite baffe. Là, Régis Pezous, qu'est-ce qu'on fait pour le sauver, le show de Bruxelles, aux yeux des enfants?
Vous allez dire que je suis monomaniaque, mais essayez cru. Coupez très fin, salade, ça passe.
Ça passe, le show de Bruxelles cru?
Et c'est ce qui est compliqué, c'est que dès qu'on va les cuire, c'est comme le chou rave, on peut le cuire, ou le chou-fleur, mais essayez le cru.
Si c'est un peu un épouvantail, finalement, si ça fait peur aux enfants, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'en manger. Exactement. De toute façon.
La saison est courte.
La saison est courte. Transformer les légumes et les fruits en un jeu, c'est aussi une idée, bien sûr, hein, pour connecter les enfants aux produits frais. Moi, en hiver, j'aime beaucoup servir de la soupe aux enfants et leur faire deviner les ingrédients qui sont à l'intérieur. Mais ça, Esther, elle est contre cette idée. Pourquoi?
Non, je suis pas très joueuse, en fait. C'est peut-être pour ça. Parce que ça crée le côté comme à l'école, on a peur de se tromper aussi. Moi j'aime bien monter les doses de légumes qu'ils aiment pas trop dans les soupes, justement. Exemple, ils sont pas fous de céleri rave, qui est quand même un légume avec un goût assez, assez marqué, qu'on apprend à aimer souvent à l'âge adulte, et beaucoup moins quand on est enfant. Vous allez pas me dire que vous vous nourrissiez de purée de céleri rave quand vous aviez 10 ans tous les deux.
Non.
Mais un petit morceau dans une soupe moulinée à la carotte et au poireau, ça va lui donner c'est un exhausteur de goût naturel, en fait. À la fois, ça sale et ça rajoute de la profondeur. Un peu comme un bouillon de viande, en fait. Donc, au début, il y en avait un petit carré. Le reste, je le mangeais en céleri rémoulade. Et puis, j'ai augmenté la dose petit à petit. Jusqu'à être moitié-moitié. Ils disent, elle est super bonne ta soupe de carottes. Et là, tu dis, oui, mais maintenant, c'est soupe de carottes et céleri rave.
Donc vous avez habitué leur palais peu à peu.
Oui.
Régis Pezous, d'autres idées pour transformer en un jeu la relation aux fruits et légumes? On peut par exemple s'amuser avec les couleurs.
On peut s'amuser avec
faire
les
des
couleurs.
Assiettes toutes rouges, toutes vertes.
Exactement. Mmh. On va les boulettes. Hein.
Les boulettes.
Franchement. Alors il y a un vrai tropisme végétal, mais sur une base de quelques haricots rouges écrasés, on peut mettre à peu près tous les légumes dedans, un petit peu de chapelure. On s'amuse à faire des boulettes de toutes les tailles, on peut leur donner des petites tailles comme des mini steaks hachés. On fait cuire ça et franchement, vous avez une recette qui est quasiment 100% végétale et ça marche très bien. Mais important, on leur sert pas les boulettes, on leur fait faire les boulettes. On fait les boulettes avec eux, exactement comme la ratatouille, c'est-à-dire que la boulette elle peut avoir une couleur un peu bizarre, mais mettez-leur les mains, ça va écraser les haricots rouges, ça va touiller, on met ce qu'on veut dedans, mais allez feuiller du persil tout doucement et on travaille la motricité fine.
Oui, c'est ce que j'avais voulu dire, excellent pour la motricité. Exact. Hein.
Et on le fait cuire ensuite en mettant à la rigueur un peu de farine avant de les cuire dans de l'huile, ça marche très bien.
Alors voilà, ça cuit dans de l'huile, c'est pas forcément.
On part pas, on n'est pas obligé de partir à la friteuse sur une poêle tout tranquille. Une des chefs qui est très investie qui s'appelle Chloé Charles. Dans l'association, a quasiment théorisé la boulette de légumes. Donc, non, c'est un très bon. Et puis, c'est super, les boulettes.
C'est super. Avec quoi sert-on les légumes sinon?
Avec les mains. Non, parce que c'est bon de les manger avec les doigts, les légumes aussi. C'est pour ça qu'on aime bien manger les haricots verts ou les boulettes. C'est important aussi de sortir de l'assiette ou de les manger pas qu'en plat, à l'apéro, à d'autres moments, en fait. Hein. C'est pas qu'au moment du repas.
À la pointe des asperges, c'est le titre de l'un de vos articles récents dans Télérama et Stérel Payani. Vous transformez les asperges vertes en mouillettes pour les œufs à la coque.
Oui, alors ça c'est tout simple. C'est un peu austère une asperge verte toute seule. Alors on a eu l'idée de couper des fines bandelettes de pâte, pâte brisée ou pâte feuilletée, ou les enrouler. Et comme ça on fait cuire directement les asperges vertes au four. Ce qui va leur donner un autre goût, parce que les asperges cuites dans l'eau, c'est quand même pas folichon. Et on a tendance à trop les cuire encore, hein, Régis, vous voyez, vous déteignez sur moi. Et comme ça, on a des petites baguettes magiques qu'on peut tremper dans un œuf à la coque ou manger à l'apéro. Et puis avec les asperges aussi, ce qui marche bien, c'est les pâtes. Mais globalement, avec plein de légumes, puisque les enfants aiment les pâtes, ils vont aimer aussi les pâtes aux légumes. Ça marche bien. Donc là, avec les queues, je fais un petit pesto. Donc juste mixer les queues avec une graine. Ça peut être des graines de courge, ça peut être des noix, des noisettes, ce que vous avez sous la main, de l'huile d'olive. Les pointes, vous les faites revenir dans l'huile, dans un peu d'huile d'olive. Et puis vous mélangez vos spaghettis avec ce pesto de queue d'asperges et des asperges dessus. Et hop. Puis si les enfants n'en veulent pas, ça en fait plus pour les parents.
Quelle est la recette pour enfants qui a le plus marché parmi toutes celles que vous proposez chaque mois dans Télérama et Stérel Payani?
On a eu un gros succès sur la pizza au brocoli de vice-versa, dont on a déjà parlé. Ça, c'est resté un hit. Là, récemment, on a fait un allo-gobi, c'est-à-dire un plat de chou-fleur aux pommes de terre avec une sauce tomate et épices. C'est un plat végétarien qui a très, très bien marché. Mais globalement, on a de bonnes retombées sur les plats végés à manger en famille et donc les plats de culture indienne. Il y avait aussi un curry aux pois chiches et aux épinards. Légumes qui est souvent dit détester des enfants. Moi, c'était mon légume préféré quand j'étais petite, les épinards. Pareil, ça avait bien marché parce qu'il suffit de mélanger une boîte, trois poignées d'épinards et un petit peu d'épices pour avoir un super plat à manger ensemble.
La pizza de Vice Versa, je le précise, c'est le dessin animé Vice Versa et cet enfant qui s'appelle Riley, je crois, et qui déteste les brocolis. Mais sur la pizza, si, ça marche. Vous êtes aussi un adepte, je crois, Régis Pezous, de la pizza aux légumes.
La pizza végétale, on parlait un petit peu tout à l'heure de la carotte, un pesto de carotte à la place de la sauce tomate. Plein de légumes dessus, même des radis.
Des radis sur la pizza.
Okay. Un bon fromage dessus. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait notamment, on intervient à l'Académie du Climat à Paris et c'est un de nos hits.
Auprès des enfants,
des parents et on scotche tout le monde avec ça.
Ok, je vais tester la pizza au radis avec des radis légèrement cuits donc.
Et on
je reviendrai vers
recette.
Vous. Allez, on abandonne les fruits et légumes pour les livres à présent. Voici Denis Chessou et son regard toujours vif sur l'actualité de la littérature jeunesse. Bonjour Denis.
Dorothée Barbaz en France Inter. Là tu lis mon petit loup.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous. Le rat, la mésange et le jardinier de Fanny Ducassé. C'est aux éditions Thierry Magnier à partir de 5 ans. Au fond d'un grenier peu accueillant vivait un rat, confortablement installé dans une ancienne maison de poupée.
Ce rat ne sortait pas beaucoup car il se trouvait très laid. Il craignait qu'à sa simple vue on détalât.
Il se réfugiait pour se rassurer dans les conseils de beauté prodigués dans les magazines. Puis un matin, le rat s'aventura hors de chez lui. Son attention fut attirée par un pépillement au-dessus de sa tête.
Une mésange zinzinulait avec élégance. Il admira l'œil masqué, le manteau bleu aux reflets d'ardoise.
Le rat était ébloui. Il en venait à se demander ce que ça faisait de voir le monde depuis tout là-haut, aux côtés des étoiles.
Ta vie de rongeur doit être bien ennuyeuse comparée à la mienne. Si tu veux, je t'emmène. Vu du ciel, tout est différent. Fais ta valise, rat. Demain, à la pointe du jour, nous partons.
Au chant du coq, il était prêt pour l'aventure. Décollage immédiat. Bientôt, les forêts et les lacs devinrent un patchwork immense.
Le rat s'étourdissait. Ici, au-dessus des nuages, il pouvait être qui il voulait.
Mais le rêve prit une tournure très différente. Il était grisé. Il se délesta de sa petite valise.
La mésange fendait l'azur à tire d'aile lorsque, en plein vol, elle lâcha subitement le rat.
Il crut mourir. Et c'est un drôle de jardinier qui le recueillit 4000 pieds plus bas.
Avec une infinie précaution, il recueillit le rat blessé. Des jours durant, il lui apporta autant de soins et de délicatesse qu'il emportait à ses fleurs. Le rat se sentit alors précieux et délicat.
Une amitié naquit entre eux. Les moments qu'ils passaient ensemble étaient doux, passionnants et sereins. Le rat se sentait bien ici.
Le long d'un ruisseau, son reflet lui apparut dans l'onde claire. Au fond de l'eau, il distingua le raffinement d'un cœur sensible et se trouva beau. Dès lors, il ne voulut plus jamais devenir quelqu'un d'autre que lui.
Alors voici un petit héros, un velu malmené, aussi bien par ses propres pensées que par des acolytes mal intentionnés. Et Fanny Ducassé raconte son histoire avec toute la délicatesse qu'on lui connaît, qui était remarquable hein, aussi bien dans ses illustrations à l'exigeante précision qu'à cette histoire racontée dans une langue aussi soutenue qu'elle est chantante. Donc c'est un livre pour se réconcilier avec soi-même et pour réussir à s'entourer des bonnes personnes. Le rat, la mésange et le jardinier, aux éditions Thierry Magnier, c'est à partir de 5 ans. La nature de Emma Adbage, aux éditions Cambourakis, c'est pour les 6-8 ans et c'est pour tout le monde. Vous faites n'importe quoi avec la nature et vous ne comprenez que trop tard pourquoi elle devient hostile. Eh ben, c'est le thème de cette fable écologique très quotidienne et bien pensée.
Dans notre petite ville habitent toutes sortes de personnes. Nous sommes plusieurs enfants, bien sûr, et des adultes de tous âges. Il y a aussi des chiens et d'autres animaux de compagnie. Autour, c'est un peu différent. Ça s'appelle la nature.
Et là déboule une somme de petits désastres sur un concentré d'une année comme un raccourci d'erreur étalé dans le temps.
On aime les arbres, les couleurs de leurs feuilles, mais quand les feuilles rouges deviennent marron, ce n'est plus beau. Alors on coupe le tilleul pour éviter de ramasser les feuilles.
Alors la neige, c'est sympa, même si l'hiver est de plus en plus rikiki.
Bah, y a un moment, faut déneiger.
Ah, raclons cette stupide neige, appelons un camion pour la mettre au lac avec les autres déchets et mettons du gravier.
Alors ça pousse vite hein, au printemps entre le gravier.
Trop pénible. Allez, un peu de goudron et tout est réglé, mais on aime la nature, hein.
Alors l'été suivant, c'est dommage, ouais, on peut plus se baigner dans le lac pollué. Mais bon, il y a la piscine.
Oui, mais 11 jours sans pluie avec la canicule, le bassin est vide. On ne peut plus faire de glaçons car il n'y a plus d'eau dans le puits. Asseyez-vous à l'ombre du grand tilleul, crie quelqu'un.
Et dommage, il a été coupé pour faire du bois pour les grillades. Et donc ainsi de suite, le petit paradis de départ devient un enfer à force de maltraitance envers la nature, personnifiée, toujours avec un N majuscule. Alors milieu exploité par l'homme au maximum, sous l'injonction plus ou moins de la consommation et du moindre effort.
Et l'humain est donc bien le problème.
Ouais, oui, métaphore de nos excès en cascade, collectivement et individuellement. Alors illustration fantaisiste qui tranche avec le récit assez factuel, des personnages mollassons, dégingandés, avec des longs bras et des jambes qui les embarrassent. Donc des réactions en chaîne, même pas caricaturales, hein, compréhensibles par les enfants, de ce concentré d'urbanisation sans retour qui pointe très bien cette coupure homme-nature. La nature, donc aux éditions Cambourakis, c'est pour les 6-8 ans, vous avez compris, c'est pour tout le monde, traduit du suédois par Catherine Renaud. Merci à Christophe Imbert pour sa réalisation, à Lucie Cospala, Eric Oswald, Denis Chessou. On vous souhaite de belles lectures.
Merci beaucoup Denis Chessou, on retrouve ses conseils à la rubrique « L'as-tu lu mon petit loup ?» sur le site de France Inter. Estherelle Payani, Régis Pezous sont toujours avec moi. Nous avons parlé fruits et légumes ensemble et j'ai une dernière question à présent à vous poser, question rituelle de cette émission. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance et celle qui est déjà venue dans cette émission, évidemment, doit trouver une autre réponse. Estherelle Payani.
Je crois que c'est la lavande. Alors évidemment, ça se voit que je suis du grand nord de la France. Bon, je suis marseillaise et l'odeur de la lavande, elle intervient dans mon enfance le dimanche à deux moments. Quand mon grand-père m'embrasse le matin, parce qu'il avait un parfum, à la lavande et à la vanille. Des années après, j'ai reconnu ce parfum. C'était Pour un homme de Caron, qui est un parfum iconique, avec un accord lavande-vanille très 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 marqué. Et c'était aussi le parfum du dimanche soir, parce que c'était l'heure du bain. Alors évidemment, on savait la semaine, mais le dimanche, on avait le temps du bain. Et il était parfumé avec de l'essence de lavandin que produisait mon autre grand-mère. Et pour moi, c'est une odeur qui évoque toujours la propreté, hein, la joue rasée et le bain. Et c'est pas du tout quelque chose d'alimentaire. Donc, de temps à autre, il y a des cuisiniers qui l'associent souvent à la carotte, d'ailleurs, où il y a des glaces à la lavande. Et j'ai vraiment un tout petit peu de mal avec le goût de la lavande, mais pas du tout avec l'odeur.
C'est un goût de savon, quoi.
Totalement. Ça se mange pas pour moi.
Et vous, Régis Pezous, quelle est l'odeur de votre enfance?
Mes grands-parents étaient d'origine italienne et ma grand-mère avait un plat qu'elle faisait tous les trois jours. Elle appelle ça la pasta ciuta, c'est ce qu'on appelle la bolognaise en français, mais c'est quelque chose qui doit cuire assez longtemps. Donc quand on en mange tous les trois jours, il y avait en permanence une casserole sur le poêle qui était là en train de bleu-blotter tomates et viande. Et donc j'ai ça planté dans le nez.
Je ne sais pas si nos deux odeurs se mélangent très bien, lavande et pasta chuta. On va les laisser séparer dans deux bocaux. Toutes les infos sur l'école comestible, l'association d'éducation alimentaire pour les enfants, sont sur votre site internet. On a mis un lien à la page de l'émission Barbatruc sur franceinter.fr. Et je rappelle le titre du livre d'Esther El Payani, La cuisine des beaux restes. Très chouette bouquin chez Flammarion. 70 recettes pour ne plus rien jeter. Avec la peau des pêches et les noyaux, vous faites
du thé glacé.
C'est, voilà, hyper bonne idée. On vous lit aussi, bien sûr, dans Télérama. Grand merci à vous deux. Bonne journée.
Merci beaucoup, Dorothée.
Et à bientôt sur France Inter.